Décryptage. Anne Corpet.
Les 9 juges de la Cour suprême américaine se retrouvent aujourd'hui pour la première fois depuis la publication de leur projet d'avis sur l'arrêt Roe contre Wade, un projet qui aurait dû rester secret mais qui a fuité via le magazine Politico. Si les juges ne changent pas d'avis, le droit à l'avortement sera bientôt considérablement réduit aux États-Unis. Il ne sera plus garanti au niveau national. Les démocrates n'ont pas réussi hier à faire adopter un projet de loi qui visait à inscrire dans la loi fédérale l'accès des femmes à l'IVG. Près de 50 ans après la décision de la Cour suprême qui autorisait l'avortement, pourquoi les 9 juges de la plus haute instance judiciaire du pays veulent-ils revenir sur cet acquis? Que peuvent faire les démocrates pour préserver ce droit jugé fondamental par les Nations Unies? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Avec nous en studio pour évoquer les menaces qui pèsent sur l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, directrice de recherche à l'IRIS, autrice de « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir ». C'est paru chez Kalman Levy. Nous sommes aussi en ligne avec Anne Légier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en civilisation américaine, enseignante à l'université Aix-Marseille, chercheuse associée à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'histoire de l'avortement et de la contraception aux États-Unis. Merci à toutes les deux d'être là. Nous sommes donc entre femmes pour évoquer un sujet qui concerne avant tout les femmes, mais qui aux États-Unis est essentiellement entre les mains des hommes, puisque la Cour suprême qui entend renverser la jurisprudence protégeant le droit à l'avortement est composée de 6 hommes et de 3 femmes. Et avant d'entamer la discussion, je voudrais vous faire écouter quelques réactions recueillies à New York au lendemain de la parution dans Politico du projet de décision de la Cour suprême. C'était le 3 mai dernier. Ces femmes, sous le choc, ont été interrogées par Lubna Anaki.
Même si je m'y attendais, ça fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. C'est difficile d'accepter que mon pays est en train de nous retirer des droits au lieu de les étendre.
Ce qui se passe est tragique et terrifiant. Et je ne sais pas ce que le futur nous réserve, mais tout ce que je peux faire, c'est être ici pour me battre pour ce qui est juste. Ma mère s'est tenue ici même pour défendre mes droits et les siens. Et je veux faire la même chose pour mes filles, pour qu'elles aient le droit de choisir.
Marie-Cécile Nave, tout d'abord, que dit l'arrêt Roe contre Wade menacé par la Cour suprême ?
Il se fonde sur le 14e amendement de la Constitution qui garantit le droit à la vie privée. Ce même amendement a fondé aussi d'autres lois importantes, dont la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, entre autres. Et donc, certains disent que c'est un peu fragile de s'abriter, de s'appuyer sur le droit à la vie privée. C'est pas une loi qui parle de santé, c'est pas une loi qui parle d'égalité femmes-hommes ou de droits des femmes. D'ailleurs, la Constitution américaine est la seule constitution en démocratie qui n'évoque pas l'égalité entre les femmes et les hommes, qui ne garantit pas l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le fameux Equal Rights Amendment qui manque toujours à cette constitution, un grand combat des féministes depuis les années 70. Et donc, il s'attarde essentiellement sur le premier trimestre de grossesse qui, en fait, concerne la très grande majorité des avortements aux États-Unis.
Et il considère que avorter...
C'est un droit constitutionnel.
Alors, sauf changement d'avis des juges conservateurs de la Cour suprême, cet arrêt de 1973 sera donc caduque d'ici la fin du mois de juin. Que la Cour suprême renverse une jurisprudence qu'elle a elle-même établie, cela s'est déjà vu, Anne Légier ?
Ben oui.
Alors oui, bien entendu, ça s'est vu, mais dans des circonstances vraiment très différentes. La référence d'ailleurs à laquelle fait allusion le juge Alito dans ce projet d'arrêt, c'est le renversement sur la question de la ségrégation raciale. Mais c'est un exemple qui est vraiment très différent, puisque là, on allait vers plus de droits, alors que ce revirement de jurisprudence pressenti indiquerait un rétrécissement des droits.
Et donc ce serait la première fois que la Cour suprême revient sur sa jurisprudence, mais pour resserrer les droits plutôt que pour les élargir ?
Tout à fait, puisque le principe quand même dans les décisions de la Cour suprême, dans les arrêts de la Cour suprême, c'est stare decisis, donc l'idée que normalement le précédent reste hein, et seulement en cas exceptionnel, c'est-à-dire violation d'égalité, la ségrégation, tout le monde comprend bien aujourd'hui que le raisonnement de la Cour en 1896, de dire qu'on peut être séparé égaux, n'était pas valable. Donc, en cas exceptionnel, on revient sur la jurisprudence, mais en principe, on ne revient pas sur la jurisprudence.
Alors, Marie-Cécile Nave, sur quels arguments juridiques s'appuie le juge Alito qui a rédigé le projet de décision ?
Il fait partie de ceux qu'on appelle aux États-Unis les originalistes, c'est-à-dire ceux qui s'attachent à une lecture de la Constitution telle qu'elle a été rédigée à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où les femmes n'étaient pas sujets de droit, ni les Noirs d'ailleurs. Et d'autres populations. Et donc, ça pose question parce que ça veut dire qu'il ne prend pas en compte un certain nombre d'évolutions sociétales qui sont quand même assez décisives dans un État de droit et dans une démocratie. Il parle du fait que l'avortement n'est pas dans la tradition, n'est pas dans l'histoire de la nation américaine. Et donc, entre les lignes, hein, quand même, quand on lit, bon, je ne l'ai pas lu en entier parce que c'est très long, mais quand on lit les extraits les plus importants, on se rend compte que c'est quand même une espèce de nostalgie d'un âge d'or un peu mythifié d'une nation où tout le monde était à sa place dans une vision très stéréotypée et très nostalgique de, on va dire, d'une société un peu ségrégée et très inégalitaire. Il n'y a pas vraiment d'argument juridique. C'est des arguments juridiques qui s'appuient vraiment beaucoup sur une idéologie. Et c'est très, 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 très politique au sens négatif du terme.
Anne Léger, ça veut dire qu'il y a d'autres droits qui pourraient être menacés si Roe contre Wade est aboli. Bah, je pense au mariage entre personnes de même sexe, notamment.
Oui, tout à fait. Alors, si je peux juste revenir sur cette petite question d'histoire de l'avortement aux États-Unis, les historiens sont en désaccord quand même avec le juge Alito sur le fait qu'il n'y a pas de tradition de l'avortement aux États-Unis. L'avortement a été criminalisé assez tardivement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et il y a toute une documentation là-dessus qui est fascinante. Et donc, ce raisonnement-là même est mis en question.
Donc sur les autres droits qui seraient menacés.
Sur les autres droits, alors évidemment, si on peut revenir sur des droits qui sont des droits fondamentaux, si on peut dire que la Cour suprême ne protège pas la vie privée, on peut revenir sur le mariage pour tous, sur plein de droits particuliers. Mais il ne faut pas oublier que on n'est pas avec Roe versus Wade, on n'est pas que sur l'IVG. On est sur l'avortement au sens large, on est peut-être sur certaines formes de contraception, je pense à la pilule du lendemain, des choses comme ça, qui ne concernent pas forcément des grossesses non désirées, qui peuvent concerner des grossesses désirées. On peut imaginer des problèmes en cas de complications lors de fausses couches, le fait que les médecins ne soient pas en mesure de prodiguer des soins essentiels en cas de fausses couches, par exemple.
Alors, très concrètement, Marie-Cécile Nave, qu'est-ce qui se passe si demain la Cour suprême dit Roe contre Wade est abolie pour les femmes ?
Eh bien, on aura un pays, et c'est déjà un petit peu le cas quand même, qui sera coupé en deux. Il y aura la moitié environ à ce stade, parce que ça peut encore évoluer dans les années qui viennent, la moitié des États fédérés qui interdiront ou restreindront tellement l'avortement que ça reviendra à l'interdire. Parce qu'on parle du Mississippi avec l'histoire des 15 semaines, etc. Mais c'est aussi un État, où le nombre de cliniques a été réduit de manière extrêmement drastique parce que les conditions imposées par l'État aux médecins et aux cliniques sont tellement compliqué que ça dissuade vraiment de pratiquer des avortements et les cliniques ferment. Et puis une autre partie du pays où ça sera possible, même où peut-être sans doute même ce droit et cet accès seront renforcés. Parce que les États gouvernés aujourd'hui par les démocrates se disent qu'il faut aller davantage dans le sens des droits des femmes et de la santé des femmes, parce que c'est une question aussi beaucoup de santé. Hein. Parfois, on avorte pour sauver sa vie, il faut le dire, et il y a beaucoup d'ignorance dans les anti-avortements aux États-Unis. Et donc, on va avoir un pays qui va être vraiment coupé en deux. Et c'est une énorme hypocrisie d'une manière générale, parce que les femmes qui ont les moyens d'avorter, de toute façon, elles vont pouvoir se déplacer d'un État à l'autre, voire au Mexique, hein, on entend parler de ça, et au Canada aujourd'hui, parfois. Et puis les autres, eh bien, elles n'auront les femmes les plus pauvres, issues des minorités, dans les zones rurales, elles auront moins de moyens d'accéder à un avortement médicalisé, mais ça ne veut pas dire qu'elles avorteront pas. Et on a vu au Texas, par exemple, avec cette loi très restrictive, interdite au-delà de 6 semaines, que la Cour suprême a refusé d'examiner, ce qui était déjà un mauvais signe pour ce qui se passe aujourd'hui, eh bien que ça ne fait pas réduire le taux d'avortement, mais il y a une explosion de commandes par la poste de pilules abortives.
Alors, venons-en à ce que peuvent faire les démocrates. Anne Légier, hier, ils ont tenté de faire passer une loi qui visait à inscrire le droit à l'avortement dans la loi fédérale. Sans surprise, ça n'a pas fonctionné puisqu'ils n'ont pas la majorité suffisante. Quel était l'intérêt de cette démarche ?
Alors, je pense qu'ils voient l'intérêt électoral pour les élections de mi-mandat, hein, les midterm elections de novembre. Et donc, ils ont dit ouvertement qu'il s'agissait pour les Américains de voir où se positionnaient leurs sénateurs. Donc, il y a vraiment un message qui est symbolique. Et ils espèrent que cela pourrait mobiliser l'électorat démocrate ou l'électorat progressiste ou l'électorat peut-être même républicain modéré. Mais ça n'est pas évident que ça fonctionne.
Marie-Cécile Nave.
En fait, les démocrates poussent les républicains dans leur retranchement. Ils savaient très bien que cette loi ne passerait pas au Sénat. Et d'ailleurs, il y a une discipline de vote totale chez les républicains contre cette loi fédérale. Ils les poussent dans leur retranchement de manière à montrer à l'opinion publique, qui est beaucoup moins divisée que la classe politique. Hein. Les deux tiers de la population américaine sont favorables au maintien.
59%,
voilà,
en effet.
Sont favorables au maintien de la Roe versus Wade. Donc, c'est pour montrer à la population américaine, y compris, comme vous le disiez très bien aussi, madame, dans un électorat républicain modéré, qui, chez les femmes, s'était déjà mobilisé pour combattre Trump au midterms de 2018, on s'en souvient, et qui peut être, espère-t-il, une nouvelle fois galvanisée pour aller battre les républicains, parce que les élections de mi-mandat, c'est le renouvellement d'un tiers du Sénat et de l'intégralité de la Chambre des représentants à Washington, mais c'est aussi beaucoup de renouvellement des exécutifs
locaux
et des congrès locaux, des gouverneurs et des assemblées locales. Et l'avortement va de plus en plus, sans doute, se décider au niveau local. Donc, en fonction de la couleur politique, vous pouvez avoir un État qui vraiment l'autorise ou renforce le droit à l'avortement et d'autres qui vont l'interdire. Donc, il y a un enjeu politique énorme.
Les démocrates ont dit que c'était la première étape d'un processus visant à rendre l'avortement possible dans tout le pays. Mais ils n'ont pas précisé quelles pourraient être les étapes suivantes. Vous avez une idée, Marie-Cécile Neuf ?
Non, cette histoire, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Parce que la tortue, c'est vraiment les républicains et les militants ultra-conservateurs qui, depuis les années 80, ratissent le terrain, font un lobbying énorme auprès des élus pour galvaniser une population qui est sensible à ces sujets-là, mais qui est un bon petit soldat du vote, qui va aller aussi voter sur cette question-là de manière très, très disciplinée. Ils sont aussi financés par des grands groupes économiques qui sont ravis que l'attention médiatique se détourne de sujets problématiques pour eux et qui permettent de détourner l'attention vers ces questions de société. Alors que le Parti démocrate a été un peu
négligent sur cette question.
Il a sous-estimé cette menace. Il a pensé que c'était un droit qui était acquis sans doute pour longtemps. Il a sous-estimé cette menace et c'est un militantisme qui, sur le terrain et sur cette question-là, il faut le dire, a été moins efficace que le militantisme évangéliste, catholique, essentiellement de terrain depuis les années Reagan.
Anne Légier, dans ce combat mené contre l'avortement par les républicains depuis 50 ans, il faut souligner le rôle de la Federalist Society. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un groupe ultra-conservateur qui a pour objectif de renverser le rapport de pouvoir à l'intérieur du pouvoir judiciaire et donc de renverser les interprétations, hein, c'est ce que disait madame à l'instant, les questions de société. Et le pouvoir judiciaire, c'est difficile à comprendre du point de vue français, mais le pouvoir judiciaire est très important pour tout ce qui est droit, puisqu'on voit que ici c'est la Cour suprême qui tranche en la matière. Et par exemple, la juge Coney Barrett, qui et les juges qui ont été mis en place par le président Trump, sont le produit de ce lobbying de longue haleine des ultra-conservateurs.
les trois,
sur la branche judiciaire.
Les trois juges nommés par Donald Trump à la Cour suprême sont en effet passés par cette fédéraliste
Society. Lui ont été présentés par la Fédéraliste Society en échange.
La liste qui est fournie, voilà.
Ont été présentés à Trump, qui est complètement étranger à cet environnement. Enfin, lui, et en plus, il a une vie complètement dissolue au sens des religieux. Et en échange de leur soutien, électoral, eh bien, il a accepté de nommer trois juges d'extrême droite sur ces questions.
Alors, on pourrait imaginer que le président Trump n'aurait pas été élu s'il n'avait pas promis de nommer des juges anti-avortement à la Cour suprême.
Ils ont eu un bol énorme de pouvoir en nommer trois en quatre ans. Enfin, pardon, mais c'est...
Oui, puis il y a une petite manipulation politique avant,
puisque
un des trois aurait dû être remplacé,
nommé par Barack Obama. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, s'était opposé, avait bloqué le processus de nomination d'un juge de la Cour suprême sous Barack Obama. Alors, Marie-Cécile Neff, tout à l'heure, vous disiez que les démocrates allaient tenter dans leurs états respectifs d'aider les femmes à pouvoir avorter, voire à financer le voyage pour certaines. Mais les républicains ne veulent pas se laisser faire, venus de l'état de Rhode Island pour prendre part en janvier à la traditionnelle manifestation annuelle des pro-life à Washington. Thomas Barnett anticipait déjà cette possibilité. On l'écoute.
Des États comme la Californie ou New York préparent déjà des lois pour payer des gens qui viendraient d'États qui n'autoriseraient pas l'avortement. Ils paieraient le transport, l'hôtel, parce qu'ils veulent l'argent. Tuer des enfants, c'est un business, ça rapporte de l'argent. Donc il faut arrêter ça.
Marie-Cécile Neff, ça veut dire que même s'ils obtiennent le Graal, en quelque sorte, c'est-à-dire l'abolition de l'arrêt Roe contre Wade, les républicains vont continuer leur combat. Ils vont pas s'arrêter là ?
Bien sûr, on entend cette rhétorique, tuer des enfants alors qu'on parle d'embryon. Enfin, c'est un narratif qui est très très, très très contestable et qui ne correspond pas aux réalités médicales. Et bien sûr, alors là, on parle maintenant d'empêcher les femmes priver les femmes de leur liberté de mouvement. C'est-à-dire si on les empêche de se rendre dans un autre état pour avoir accès à des soins, parce que c'est d'abord et avant tout des soins, un accès à la santé. Alors, ça va s'arrêter où ? On va obliger les femmes à rester chez elles. Enfin, ça peut aller très loin. On peut craindre, effectivement, aussi un retour en arrière sur l'éducation sexuelle à l'école. Bon, elle est déjà très largement menacée aux États-Unis. Le retour sur la contraception, sur l'information à la santé. Est-ce que les gynécologues pourront dire ce qu'ils veulent aux patientes, pourront leur proposer toute la gamme de soins qui sont tenus de leur proposer, enfin, au nom de la liberté religieuse. Et, enfin, ça peut effectivement aller très loin. Alors, ce qu'a fait Biden, quand même, qui est arrivé, il y a eu un certain nombre de décisions, par exemple Medicaid, qui permet d'avoir des téléconsultations pour se faire prescrire la pilule abortive. Plus besoin d'aller nécessairement chez un médecin pour se faire prescrire la pilule abortive. Il y a aussi un certain nombre de financements qui sont un peu débloqués pour certaines associations qui aident les femmes à s'informer, etc. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites. Mais à partir du moment où beaucoup de juges sont nommés par des décideurs, et pas que les juges de la Cour suprême, mais par des décideurs politiques qui sont opposés à ce droit et qui veulent galvaniser aussi un militantisme de terrain, eh bien, les démocrates sont un peu à la traîne. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si tout ce militantisme féministe qu'on a vu très, 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 très fort aux États-Unis, il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est le pays où advient MeToo suite à l'affaire Weinstein, les Women's March de janvier 2017, etc. Est-ce que ce militantisme va se traduire après dans les urnes ? Comment on va passer de la mobilisation, de la manifestation de rue à la mobilisation politique ? L'engagement en politique et le fait d'aller voter, c'est ça qui va être déterminant, parce que de l'autre côté, les postes de pouvoir les plus importants sont occupés par les républicains.
Marie-Cécile Neff, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. Anne Légier, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université Aix-Marseille et spécialiste de l'histoire de l'avortement et de la contraception aux États-Unis. Merci également à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer cette émission et à Claude Battista, fidèle au poste, qui en assure la réalisation. À bientôt.